Bonjour à vous tous. C'est une expérience peu commune de pouvoir parler à des gens un peu partout. Mais je vous dis salutations aux assemblées au Canada, Red Deer et Mississauga, et là où vous vous trouvez. Soyez les bienvenus à ce service de sabbat, un jour de jeûne. Mais le but, c'est que cela soit un jour merveilleux du point de vue spirituel. Monsieur Meredith est chez lui, il regarde cette transmission aujourd'hui. Il est chez lui. Et son esprit est toujours alerte. Monsieur Ames, il peut-être se trouve là où a lieu l'assemblée, ici à Charlotte. Nous, on a utilisé le studio puisqu'on a des limitations dans le site de l'assemblée. Nous remercions. C'est intéressant de venir quand les choses ne marchent pas comme on espère. On a Ils ont réussi à tout remettre en ordre. Il faudra remplacer un dispositif un de ces jours. Il y a le Dieu de ce monde n'aime pas ce que nous on fait, et il y a eu un petit peu de difficulté ce matin, mais je me rends compte que le diable est là, prêt à interrompre n'importe ce qu'on fait. Mais en réalité, toutes ces choses arrivent, mais n'ont pas beaucoup de signification à long terme, parce que Dieu est pour nous, il nous aide. Nous vivons dans des temps très difficiles. Les fondations géopolitiques du passé arrivent à la fin. Il y a une nouvelle réalité qui se présente, par exemple, dans la région de la Syrie. Il y a des troubles, et puis il y a des ramifications vers l'Europe, et ça affecte la situation politique en Europe. Nous voyons comment la Grande-Bretagne a décidé de quitter le marché de l'Union européenne. Ça ne nous étonne pas trop, puisque nous nous attendions à ce que ça arrive grâce à la compréhension des prophéties. Mais nous, dans l'Église, nous étions quand même surpris de la façon dont c'est arrivé. À cette époque, M. Weston était Les Anglais, Boris Johnson, peut-être qui était l'un des principaux promoteurs du Brexit, il ne s'attendait pas vraiment à ce que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Il y en a qui craignent qu'il y a d'autres qui vont quitter l'Union européenne aussi. Et quand nous étudions la parole de Dieu, ceux qui sont des membres de l'Église de Dieu, ceux qui ont étudié les écrits de M. Armstrong, ce qui a été dit par M. Meredith aussi, nous comprenons que la configuration de l'Union européenne à présent n'est pas celle qui sera à la fin. La Corée du Nord continue de défier les voisins. Il y a eu de nouvelles hier. Il y a une menace imminente de la part de la Corée du Nord. qui a beaucoup de signification. Ça fait que les gens des cercles diplomatiques sont alertes. C'est que la Corée du Nord pourrait attaquer avec des armes nucléaires les troupes américaines. Mais même s'ils ont ces armes, elles peuvent les transporter dans un autre pays, les envoyer dans un container ou dans un cargo. Donc, le monde, donc, s'attend. Le Japon et les nations voisines sont nerveuses au sujet de la conduite de la Chine. Les États-Unis est en danger d'être une nation tout à fait divisée. Et il faudrait aller au temps, nous remonter au temps de la guerre civile pour voir une polarisation telle qu'on la voit aujourd'hui dans les États-Unis. Il y a eu des époques où il y a eu des divisions profondes, mais maintenant, on voit qu'une nation est divisée contre elle-même. Dans l'évangile de Marc 3, 24, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas endurer. Franchement, le monde occidental est divisé pas seulement dans le sens politique, mais dans d'autres sens aussi. Nous voyons ces divisions sont le résultat d'une division, d'une décadence morale. L'avortement, le mariage pour tous, le partage de vestiaires et des toilettes pour les jeunes filles et les garçons, et même ceux qui sont ont le point de vue conservateur disent qu'on doit ignorer ces choses, mais c'est une espèce de ce que nous voyons, c'est la décomposition de cette société. Donc, il y a une conséquence, parce que ce sont des gens qui méprisent Dieu et ses commandements. Comment peut avoir un accord avec l'avortement, par exemple? Comment peut-on? On tue des enfants ou on ne tue pas des enfants? Il n'y a pas un milieu. Il n'y a pas un moyen de faire un compromis ou de trouver un accord. Il y a un qui gagne, l'autre il perd. Il semble que la décadence a le devant ou l'emporte. Nous savons qu'à la fin, la vérité va triompher. Il y a un autre défi auquel nous faisons face maintenant dans l'Église. Je vous parle avec... Franchement, avec sincérité, nous nous approchons d'un changement de leadership dans l'Église de Dieu. Nous sommes très reconnaissants de ce que M. Meredith a fait quand il a été un chef qui avait cette gravitas, comme on l'appelle aujourd'hui, ou qui a eu le courage de revivre l'œuvre de Dieu qui était en train d'être détruite. Nous sommes très reconnaissants. Et pour le dernier quart de siècle, il a été notre leader. Il a été l'évangéliste qui préside l'Église du Dieu vivant. Mais sa santé se détériore et son temps s'approche, comme il le sait lui-même, à moins que Dieu décide de le revivre. Il reconnaît que c'est peut-être le temps et que c'est le temps de s'endormir et d'attendre la résurrection. Mais il y a des ramifications pour vous et pour nous, parce que beaucoup de nos membres, ils n'ont jamais connu un autre évangéliste qui préside. Si vous avez 30 ans, vous avez grandi dans l'Église, vous avez toujours connu M. Meredith. Nous avons beaucoup de gens qui sont venus dans l'Église dans les derniers 25 années. À Mississauga, où vous m'écoutez maintenant, à peu près la moitié, 50% des personnes qui sont là dans la congrégation de Mississauga, ils sont venus dans les dernières 25 années. La plupart des membres au Canada n'ont pas été une partie de l'Église des dieux universels. En Australie aussi, peut-être en Nouvelle-Zélande, et en Afrique du Sud, et dans d'autres coins du monde, on peut dire la même chose, que la plupart des gens sont venus dans l'Église à cause de cette œuvre. Et tous ces gens qui ont dit que l'œuvre était finie après la mort de M. Armstrong, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ont fait une grave erreur pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Et nous avons de la reconnaissance pour avoir eu l'occasion de faire l'œuvre de Dieu grâce à l'intervention ou à la position de M. Meredith. Il y en a qui croient que, comme c'est arrivé quand M. Armstrong est mort, qu'il est inévitable que l'Église tombe encore dans une autre apostasie. Il y en a qui croient qu'ils ne voient pas la preuve, mais ils croient que c'est inévitable. Ils savent ce qui est arrivé après la mort de M. Armstrong, et ils croient que la même chose va arriver encore. C'est compréhensible. On comprend cette crainte, mais est-ce que l'Église des dieux s'est toujours détournée quand il y a la mort d'un leader ou d'un chef? Nous approchons d'une transition d'une grande signification. Et nous allons voir que beaucoup de choses positives peuvent arriver et arriveront si nous avons confiance et nous obéissons notre Créateur. Et l'un suit l'autre. Si on n'a pas de confiance en Dieu, on n'obéit pas. Donc, Moïse a conduit les enfants d'Israël pendant 40 années, mais dans la vie d'une personne au niveau individuel, et la plupart sont morts. Sont morts pendant cette époque. Et ceux qui étaient plus jeunes, qui avaient moins de 20 ans, 20 ans au moins, ils sont survécu. Mais la plupart de cette génération, tous ces gens-là, ils n'avaient connu que Moïse comme leur chef. Ils étaient avec lui depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte. Si nous nous allons au temps de la transition en Deutéronome 31, verset 1, Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. À cause d'une erreur qu'il a commise, Dieu ne lui a pas permis de traverser le Jourdain et d'aller vers l'Anne. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Et ça, c'est très important.
C'est
l'Éternel lui-même, il marchera lui-même devant toi. Il détruira ses nations devant toi. Et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel te l'a dit. L'Éternel traitera ses nations comme il a traité Sion. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui va nous guider vers la terre promise. Et l'Éternel, comme il a fait à Sion et à Og, roi des Amoréens, l'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Nous devons avoir cette force, ce courage, ne pas être craintif en nous demandant qu'est-ce qui va arriver. Il faut être, avoir le courage en sachant qui est le chef de cette œuvre. C'est le Christ lui-même qui est le chef de cette œuvre. Et si nous croyons ça, les choses vont bien marcher. Donc, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Ne soyez point effrayés devant eux. Parfois, nous craignons des choses que nous ne devons pas craindre, mais ce sont des choses qui se les produisent dans nos imaginations. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. C'est lui-même. Il ne te délaissera point. On peut quitter Dieu, mais Dieu ne va pas nous quitter. Verset 7, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point, ne crains point, et ne t'effraie point. » Ce sont les paroles que Moïse parla devant le peuple. Il a dit, mon temps s'approche, je ne peux plus entrer et sortir, mais l'Éternel, Dieu, sera avec vous. N'ayez pas peur, ne soyez pas craintifs, soyez courageux. Voyons maintenant verset 22. Deutéronome 31, verset 22. Dieu lui a dit d'écrire une chanson. En ce jour-là, il écrivit ce cantique et il enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel, et il donna ce sort à Josué, fils de Nun, et dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël avec le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Monsieur Meredith ne nous a pas laissés dans le noir. Il a clairement déclaré qu'il y aurait une succession, un successeur, et dès le début, il a reconnu le fait qu'il ne serait pas là pour toujours. Il a institué le Conseil des Anciens. Je me rappelle il y a des années au lac des Ozarks aux États-Unis. C'était peut-être dans l'année 99 ou 2000. Monsieur Meredith m'avait posé la question, qui crois-tu que sera mon successeur? Donc il y pensait déjà il y avait une vingtaine d'années, un peu 17. Je lui donnais des noms des gens que je croyais que c'était les gens les plus qualifiés. Et il y en a deux qui sont morts, puis il y a l'autre qui est mort. Et monsieur Ames est toujours là. Et nous sommes reconnaissants du fait qu'il se récupère, qu'il s'est rétabli. Il est toujours le même que nous avons toujours connu. Et nous sommes très contents de savoir qu'il est en train de se remettre. Il remerciera vos prières. Et puis, je remercie beaucoup toutes les cartes que j'ai reçues, tous ceux qui ont envoyé cartes aussi à M. Meredith. Il est très reconnaissant. Nous voyons les notes que les membres écrivent. Nous lisons et nous remercions. Nous sommes reconnaissants de toutes ces choses-là. Nous nous remercions. C'est très important pour nous et ça nous encourage. Nous voyons donc ici que Josué a été choisi. Monsieur Meredith a fait des préparatifs pour son départ, pour quand il s'endormira, l'œuvre va continuer. Et ce que je veux, c'est ce que tous ceux qui sont ici au siège désirent et veulent. Ils continuent l'œuvre. L'œuvre a commencé avec Jésus-Christ et tout au long de l'histoire jusqu'à maintenant. Il y a eu des époques où, mais l'Église toujours continue. Il y en a qui s'égarent, qui s'éloignent, mais il y a toujours ceux qui persévèrent. Il y en a toujours eu des gens fidèles tout au long de l'histoire, comme le Christ l'a prédit. Si nous sommes fidèles, si nous avons confiance en Dieu et nous obéissons Dieu. Il y a une histoire là qui me vient à l'esprit maintenant. Il y a quelques années, dans les années 1974, c'était une époque difficile. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas là à cette époque-là. En 1974, il y a eu de la rébellion. Il y a eu 3000 personnes qui sont parties avec d'autres ministres. Un assistant ministériel qui était connecté avec les rumeurs, chaque fois qu'on se réunissait, il nous donnait toutes les nouvelles des choses qui arrivaient. Finalement, je me suis rendu compte que Dieu ne va pas nous montrer sa vérité par l'intermédiaire des rumeurs. Je pensais de cette façon. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a des veuves qui sont un peu écartées. Qu'est-ce qu'elles vont faire si la vérité vient par une rumeur? Elles ne sont pas connectées avec ces rumeurs. Si elles obéissent Dieu, si elles ont confiance en Dieu, s'ils ont leurs yeux en Jésus-Christ, ils n'ont pas besoin d'écouter une certaine rumeur pour être au courant de qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Dieu ne se sert pas de ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui... Ce n'est pas la façon dont Dieu travaille. Et nous devons bien comprendre ça. Parce que ça ne va faire que nous dévier de la vérité. Au verset 24, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il sera comme témoin contre toi, car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence. Je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il est en train de parler à la nation d'Israël qu'ils allaient se dévier de la vérité après la mort de Moïse. Mais il faut voir toute l'histoire. Nous savons aussi que à la fin des temps, les enfants d'Israël vont s'égarer, vont se dévier de la vérité. Ils vont être pervertis. Parce que vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains, Moïse prononça dans leur entier les paroles de ces cantiques en présence de toute l'assemblée d'Israël. Donc Dieu savait qu'après la mort de Moïse, ils allaient se corrompre. Qu'est-ce qui est arrivé? Voyons, regardons ça avec soin. Regardons le livre de Josué. Avant, allons vers 32 de Deutéronome, verset 44. 32. Moïse vint et prononça toutes ces paroles. Deutéronome 32, 44. Moïse vint et prononça ces paroles de ces cantiques en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants. Nous comprenons le besoin d'obéir. Il y a des gens qui ont abandonné la loi de Dieu après la mort de M. Armstrong, mais il y en a qui ne l'ont pas abandonné. Il y en a qui ont persévéré. Il y a des milliers qui sont restés fidèles à la vérité. Et il dit ici, « For it is not a futile thing for you, because it is your life. » Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. C'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Donc, il leur dit de regarder la terre promise. Il a dit à Moïse de mourir. Regardons maintenant l'histoire, continuons l'histoire avec le livre de Josué, chapitre 1, parce que la transition a été faite. À chapitre 1, verset 1, « Après l'apport de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils d'Enon, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Maintenant, ça doit être douloureux pour les gens d'écouter. C'est toujours douloureux quand nous perdons un être que nous aimons, que nous avons connu pour longtemps. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Mets-toi à la tâche. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai fait avec Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi. Regardez-vous, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas M. Weston, ce n'est pas M. Merritt, ce n'était pas M. Armstrong. C'est Dieu qui a utilisé ces hommes. Il s'est servi de M. Meredith. Il va se servir de moi, ce qu'il voudra. Je peux bien mourir ce soir, mais quiconque va être en charge. Mais c'est Dieu qui est avec nous. C'est Dieu qui nous donne la force. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est une promesse de Dieu pour son peuple. Et nous devons comprendre que c'est une promesse. Dieu, fortifie-toi et prends courage, que c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en donne en détourne ni à droite ni à gauche. Donc, il faut donc avoir le courage pour obéir cette loi. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Si nous nous détournons, nous nous mettrons dans des sérieuses difficultés. Je sais que vous ne voulez pas quitter. Vous savez la raison pour laquelle nous sommes ici. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans cette entreprise, c'est alors que tu réussiras. C'est en acceptant la grâce de Dieu et sa miséricorde, ça va nous apporter la réussite avec l'obéissance. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous savons le résultat final, mais nous ne savons pas exactement ce qui va arriver demain ou 6 mois d'ici. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes ici pour un chemin difficile. Et si quelqu'un est ici pour un chemin facile, il n'est pas dans l'endroit correct. Dieu nous a commandé d'enseigner sa vérité. Et il nous donne le pouvoir de le faire. Nous devons être prudents, mais nous ne devons pas nous cacher. Nous n'avons pas à nous cacher pour nous échapper des difficultés, de persécutions. J'espère que vous le comprenez tous, car c'est notre sort. Jésus-Christ l'a dit à ses disciples, le monde ne va pas vous aimer. Il va s'opposer à tout ce que vous faites. Ne vous ai pas commandé, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce qu'il tu entreprendras. Dans le livre de Jérémie, l'Éternel avertit Jérémie que les gens vont s'opposer à lui, qu'ils vont le rejeter. Dieu lui a dit, je vais faire ton front plus dur que le leur. Dieu a dû lui, même la famille de Jérémie s'était opposée à lui. C'est le sort du peuple de Dieu tout au long de l'histoire. Il y en a qui, pour que Dieu a, dans les livres des Hébreux, Dieu les a protégés de la mort, mais d'autres n'ont pas été protégés, ont été sciés à moitié. Nous avons eu un temps paisible pour les derniers 50 ans. Ça ne sera pas aussi facile dorénavant pour le peuple de Dieu. Il y aura des difficultés. Alors, qu'est-ce que Josué a fait? Nous lisons verset 10. Josué a donné cet ordre aux officiers du peuple, parcourez les camps, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donnera la possession. Donc, il a accompli la tâche que Dieu lui a commandé de faire. Alors, allons vers la fin du livre. Au chapitre 23 du livre de Josué, au verset 14.
Il dit, « Behold this day, I am going the way of all the earth. »
Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc il reconnaît qu'il doit mourir. Aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Donc pendant toutes ces années, Dieu a été avec eux. Ils n'étaient pas parfaits, ils ont commis des erreurs, mais il y a eu des conséquences, mais en tout, ils sont restés proches des dieux. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous a dites, se sont accomplies pour vous. De même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit au-dessus de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Donc, Josué, il comprenait que les gens, il y en a qui allaient se détourner. Il savait bien les conséquences. Josué assembla toutes les tribus d'Israël, chapitre 24, à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël. Au chapitre 29, après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage. Donc, on l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Sérakh, verset 31. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissent tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Donc, ils sont restés en général, fidèles. Et après la mort de Josué, les anciens, ils sont restés fidèles. Donc, ils sont restés fidèles toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissent. Donc, il n'est pas inévitable que quand un leader meurt, ce sont des gens charnels. Il y a beaucoup de gens charnels qui sont entrés dans l'Église universelle. Il y a un homme qui a dit publiquement, j'ai jamais étudié la Bible. Il y a des gens qui ont dit ça. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Si nous étudions la parole de Dieu, si nous prions à Dieu, si nous jeûnons comme nous faisons aujourd'hui, pas seulement quand l'Église proclame un jeûne ou seulement pendant le jour des expiations, il y en a des gens qui ont des questions de santé et qu'on comprend qu'ils ne peuvent pas jeûner souvent. Mais ce sont des choses que vous pouvez parler avec vos ministres. Mais si nous faisons notre part, Dieu sera avec nous. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas partir quand le leader s'en va. Il est toujours avec nous, parce que c'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas l'Église d'un homme. Il y a des leaders qui sont plus forts, qui ont plus d'énergie, mais ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un meurt, et il y a quelqu'un qui va conduire l'Église dans les directions erronées. J'ai toujours rejeté l'idée de... Je ne savais pas que moi, j'allais être dans cette position. Mais ce n'est pas automatique qu'un chef va détourner le peuple. Nous savons qu'il y a une tendance, à se détourner, à s'égarer. Mais tout au long de la Bible, dans le livre des juges, nous voyons qu'il y a des juges qui menaient les peuples de nouveau au chemin, et puis après qu'ils étaient égarés. Nous savons que c'est typique pour des gens qui commencent ce chemin de vie, ils ne finissent pas, ils ne persévèrent pas. Mais toujours, il y a ceux qui seront fidèles. Parmi vous, ceux qui sont, vous êtes beaucoup parmi ceux qui sont assis, il y en a qui sont là et qui ont été fidèles pendant des décennies. Il y a des gens qui ont été fidèles et loyaux pendant des longues périodes. Et on vous félicite pour ça. Il y a des gens qui ne vont pas s'égarer. Se détourner, s'égarer, c'est un choix. Ce n'est pas une nécessité. Nous, on ne doit jamais se comparer avec Josué, avec Moïse. Je ne veux personne de croire que nous, on a. Il y en a d'autres qui assurent qu'ils ont le rôle de Josué ou de Moïse. Il y en a qui croient qu'ils sont les deux témoins, etc.
Ce n'est
pas le point. Je parle simplement d'une transition, pas d'une comparaison avec ces leaders de Dieu dans le passé. Josué et Caleb étaient des gens qui avaient confiance en Dieu et qui obéissaient à Dieu. Voyons dans le livre des Nombres, chapitre 13. Voyons, nous connaissons cette histoire. Verset 1, 13:1, Nombre. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya au désert, du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Il y avait là, parmi eux, Josué et Caleb. Donc, ils avaient des rapports merveilleux de la terre en rentrant. Et même jusqu'à ce jour, on voit les deux qui apportaient les raisins, là.
Ça doit être...
C'était vraiment une terre très productive, très fertile. Donc, ils ont montré le fruit de la terre. Mais alors, ils se sont plaints. Verset 20, il dit, Amalek habite dans le pays. Et puis ils ont vu les géants, au chapitre, verset 24, on donna ces livres. Ils ont dit que ces gens étaient plus forts qu'eux. Et le résultat final, c'est que les enfants d'Israël, au chapitre 14, verset 1, des nombres et toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays? Alors, ils parlaient de lire un autre leader. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage à présent de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël et parmi eux qui avaient exploré le pays, Josué, le fils d'Hénon, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera, dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Quel est le résultat? Verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Ils voulaient les lapider. Mais ces hommes se sont tenus fermes. Josué, il a conduit le peuple vers la terre promise. Il y en avait d'autres plus jeunes qui ne sont pas morts. Alors, ils ont continué après Josué. On ne sait pas combien d'années. Donc les gens sont restés fidèles même après la mort de Josué. Donc ce n'est pas inévitable que l'Église détourne, comme quelqu'un pense, quand il y a un changement de leadership, de chef. Israël n'a pas eu confiance. Il ne croyait pas que Dieu était parmi eux. Ça, il y a une référence dans d'autres écritures, des choses qui sont arrivées tout au début. Nous lisons dans l'Exode, chapitre 17. Je pensais que Dieu était miséricordieux envers ces gens qui venaient d'arriver, de sortir de l'Égypte. Mais Dieu se fâchait de plus en plus avec eux au fur et à mesure. Mais il y a assez de références dans d'autres passages, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, au sujet de cet incident. Il y a quelque chose de très important à comprendre ici, dans le chapitre 17 de l'Exode. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. C'est après la rébellion devant la mer Rouge. Ils ne sont même pas arrivés au mont Sinaï ici. Ils campèrent à Rephidim et le peuple ne trouva point d'eau à boire. On peut comprendre que quand on n'y a plus d'eau dans le désert, nous avons un membre au Pérou. Il y a une dame qui a perdu sa maison pendant des inondations. Il y a donc, avec ses deux filles, donc il y a des inondations au Pérou. Il y a un membre de l'Église qui a perdu sa maison, mais il n'y a pas eu d'autres pertes de vie. Donc l'Église va certainement prêter l'aide nécessaire pour ces personnes qui ont subi des... Quoique elle a l'Esprit de Dieu, que l'Éternel la console, nous prions pour elle. Donc nous devons donc prier à Dieu pour l'aider dans cette crise. En retournant ici, donc le peuple n'a plus d'eau. Donc il dit, donnez-nous de l'eau. Et Moïse dit, pourquoi vous? Le peuple était là pressé par la soif, murmurait contre Moïse, disant, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Ils condamnaient Moïse. Et les gens murmuraient contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple encore un peu et ils me lapideront? L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'y est pas? N'y est-il pas? Donc, ils mettaient en doute si Dieu était avec eux ou non. Après tout ce qui était arrivé, avec tous les miracles que Dieu avait opérés, je crois que nous avons donc appris que les miracles ne perdurent pas dans la tête des gens. Il y a des gens qui se détournent après avoir été miraculeusement guéris. Monsieur Meredith se rappelle des gens qui ont été guéris miraculeusement et qui se sont éloignés, ont quitté l'Église. Mais le fait qu'il y a eu une intervention et qu'on ne pouvait pas expliquer autrement, ça ne les a pas sauvés. Quelque chose est fondamentalement ne marche pas du tout avec certaines personnes. Il y a des gens qui s'égarent, qui s'éloignent, qui quittent. Si nous allons dans le livre aux Hébreux, chapitre 3, nous voyons le problème des enfants d'Israël. Ils ne croyaient pas. Verset 3, 16, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui sera-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Quel était le problème? Le verset suivant, verset aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas pu accepter que Dieu était avec eux. Il y a des gens qui ont des difficultés à croire que le Christ est le chef de cette Église et qu'il va faire que les choses marchent bien. Le Christ, il a permis ce qui est arrivé à l'Église universelle parce qu'il devait y avoir une épreuve, une sélection. Il y avait des gens qui gardaient la Noël en secret. Il les gardait silencieusement. Il y a des gens qui avaient une conduite immorale. Ils n'avaient pas un rapport intime avec leur Créateur. Ils ne se nourrissaient pas du Christ. Ils ne priaient chaque jour pour étudier la parole de Dieu ou de jeûner avec régularité. Je regarde toute ma vie. Je sais qu'il y a des époques dans ma vie où je n'ai pas été aussi diligent dans l'étude. J'ai bien appris qu'il fallait prier. Il y a très peu de jours dans ma vie où je n'ai pas prié. Donc. Mais ce sont des rares occasions. J'ai pas pris le temps d'étudier au début. Donc, j'étais dans un monologue avec Dieu, mais il ne me parlait pas à moi parce que je n'étudiais pas sa parole. Il fallait que je lise pour que lui, il me parle. Donc, il veut que nous étudions sa parole, que nous sachions qu'est-ce qu'il dit. Et nous tous, de temps en temps, nous négligeons l'étude, nous ne nous rendons pas compte. Parfois, notre vie de prière n'est pas aussi intense et nous ne restons pas à genoux et notre tête, notre esprit est distrait. Donc, nous devons donc remplir, faire le plein, pour ainsi dire, et nous rapprocher de Dieu. Parfois, Dieu, il peut nous attirer l'attention, nous humilier par le jeûne. Et on espère qu'on n'obligera pas Dieu à nous mettre dans des épreuves difficiles pour nous éveiller. Ici, donc, ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité. Il faut donc rester proche de Dieu. Au chapitre 11, c'est un... Ici, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut la foi pour garder le sabbat, pour garder les fêtes de Dieu, pour payer les dîmes. Il faut la foi pour rester ferme et de suivre le chemin droit et que ça toujours aura le succès, un résultat final. Dieu nous a donné les 10 commandements pour nous montrer qu'il y a certaines choses qui sont toujours justes, toujours correctes. Il y a d'autres qui sont toujours mauvaises. On peut jamais croire que parfois il est acceptable de mentir ou de voler. Dieu nous enseigne. Par exemple, honorer nos parents. Ce sont des choses qu'on doit toujours faire. Il y a des choses qui sont toujours erronées, qui sont mauvaises. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. En Galatiens 2, c'est la foi du Christ en nous. C'est la foi du Christ, pas la foi en Christ. Donc, voyons ici au Galatiens chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, donc sa vie passée est morte. Ce Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Ici, la foi au Fils du Christ. Mais le texte doit la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, c'est la foi du Fils de Dieu. Il faut corriger la version, là, Louis II, elle n'est pas correcte. C'est la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car c'est la justice qui s'obtient par la foi. Le fruit que nous pouvons voir vers la fin d'un jeûne, on peut se communiquer avec Dieu beaucoup mieux que peut-être au début du jeûne. Mais le jeûne vous transporte dès l'avant. Et après, on se rend compte plus tard qu'il faut jeûner encore. Israël n'a pas eu confiance en Dieu. Mais l'Éternel a dit qu'il sera toujours avec nous si nous avons confiance en lui. Nous voyons ça dans Deutéronome 31, versets 6 et 8. On va revoir ces écritures. Deutéronome 31, verset 6, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Si nous faisons notre part. Verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, et ne t'effraie point. C'est un principe que nous pouvons, donc, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Il a dit à Josué directement au chapitre 1 de Josué, au verset 5, Il y a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Nous voyons donc, ici nous voyons ça dans le livre des... Au verset, chapitre 13 des Hébreux, chapitre 13, du livre des Hébreux, il dit, il parle de l'hospitalité. Il parle de ne pas oublier ceux qui sont prisonniers. Le mariage soit honoré. Verset 4, 13, 4 des Hébreux. De tous est le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne te abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Nous voyons donc que Dieu est avec nous. Que Dieu ne va pas nous abandonner. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Une façon dont nous pouvons croître dans l'esprit, dans la croissance, dans la foi, c'est par le pouvoir du Saint-Esprit. Voici ce que l'apôtre Jean dit, l'apôtre, dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, le Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. 14, 15 de l'évangile de Jean. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, c'était un consolateur, quelqu'un qui va vous aider. C'est une description merveilleuse du Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes reconnaissants du fait que Dieu nous a préservés dans sa vérité, même après la mort de M. Armstrong et après l'apostasie. Moi, je n'étais pas le plus fort. Il y a des époques de ma vie où je n'ai pas fait. C'est-à-dire, je n'ai pas toujours été aussi proche de Dieu que je devrais. Mais je sais que dans la mesure où j'étais proche de Dieu, il nous a préservés par sa merci, par sa miséricorde. Il nous a préservés. Et Dieu, il va préserver vous tous dans les temps qui s'approchent si nous faisons notre part, si nous avons du courage, si nous avons cette confiance et cette obéissance en Dieu. Donc, il dit ici, verset 17, 14, 17 de Jean, je ne vous laisserai pas orphelin. Il ne va pas nous laisser et l'Église disparaître. Il y a des gens, qui ont cru que l'Église avait disparu parce que leur assemblée s'est dissoute. Mais l'Écriture nous dit, ça ne va pas arriver. Les portes du sépulcre ne vont pas prévaloir contre l'Église, le Christ l'a dit. Nous devons donc avoir cette confiance, cette foi que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Il va continuer à nous guider. Nous jeûnons aujourd'hui. Oh, dans le chapitre 4 de Jacques, on nous parle de nous humilier devant Dieu. Donc, c'est important de lire ça avant de conclure. Chapitre 4 de l'Épître de Jacques. Verset 4, adultère, que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc, on ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église de Dieu. C'est l'un ou l'autre. Cependant, il y a des gens qui essayent de... Donc, quiconque veut être un ami du monde, il devient un ennemi de Dieu. Voyez-vous que l'Écriture parle un vin? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en nous. Mais versets 4 et 5 nous dit... Il y a le chemin des dieux, il y a le chemin du monde. On ne peut pas les combiner. C'est l'un ou l'autre. Donc, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut obéir à Dieu. Et ce qu'il dit est vrai. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu dit, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, nous devons donc nous rapprocher et cultiver ce rapport avec Dieu, parce qu'il est la source de notre force. Regardez maintenant quelques promesses dans Romains 8. Il faut considérer ces promesses. Chapitre 8 de Romains, verset 28. Donc, il faut mémoriser ça. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car nous devons donc aimer Dieu, que nous avons été appelés d'après son dessein, car ceux qu'il a connus. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Nous ferons face à des temps difficiles dans le futur. Le diable, il va faire tout ce qu'il peut pour nous attaquer. Mais nous pouvons le vaincre si nous sommes proches de Dieu. Franchement, ces temps vont être effrayants. Mais une chose que nous pouvons savoir, c'est que, à la fin, tout ira bien si nous avons confiance et si nous obéissons notre Créateur.